Radio Kapi.
Au sommaire, barrage intercontinental qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 RDC Jamaïque, c'est tout à l'heure à 22h de Kinshasa. Les Congolais ne jurent que sur la victoire de leur 11 national pour enfin revenir à la Coupe du Monde 52 ans après. Dans ce journal, vous suivrez également les encouragements du chef de l'État. Nous serons au Nord Kivu où des combats opposent depuis deux jours l'AFC M23 à des groupes armés Wazalendo qui viennent de s'installer dans des localités abandonnées récemment par ces rebelles au sud de Lubero. Selon des sources sur place, l'AFC M23 aurait stoppé son retrait et tenterait de récupérer certains villages. Notre invitée est Madone Doa, actrice sociopolitique. Elle encourage le gouvernement à mettre en place des programmes favorisant l'indépendance économique des femmes, notamment à travers l'entrepreneuriat et l'accès au crédit. Mesdames, messieurs, bonsoir. À quelques heures du barrage intercontinental qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, prévu ce mardi à 22h, heure de Kinshasa, le président de la République a adressé hier lundi dans la soirée un message d'encouragement aux léopards de la RDC. Dans son adresse, Félix Tshisekedi a tenu à exprimer au nom du peuple congolais en son nom propre un message de confiance et de fierté envers les joueurs. À quelques heures d'un rendez-vous crucial face à la Jamaïque, le chef de l'État a rappelé l'importance symbolique de cette rencontre. Le point avec vous, Alain Hirung.
Le président a exhorté les joueurs à faire preuve de discipline, de solidarité et de maîtrise, tout en y ajoutant ce supplément d'âme qui caractérise les grandes équipes dans les moments décisifs. Il a également invité les léopards à s'inspirer des grandes figures du football congolais qui ont marqué l'histoire et contribué à la renommée du pays sur la scène internationale. S'adressant directement aux joueurs, le chef de l'État a souligné qu'ils sont les héritiers d'une histoire glorieuse, désormais appelés à écrire la leur. Chaque action sur le terrain, chaque duel, chaque minute du match portera une dimension nationale. Au-delà du sport, pour le chef de l'État, cette rencontre est un moment de représentation de la dignité, de la fierté et des ambitions d'un peuple tout entier. Dans son message, le président Félix Tshisekedi a rappelé que derrière les léopards se tient tout un peuple. Des enfants qui rêvent à travers leur performance, une jeunesse en quête des repères et d'espoir, ainsi que des compatriotes éprouvés, notamment dans l'est du pays, qui trouveront dans ce match une source de réconfort et de rassemblement. Le chef de l'État a conclu son message en appelant les léopards à jouer avec honneur, avec le cœur et avec foi, avant d'adresser ses vœux de victoire et de bénédiction à l'ensemble du peuple congolais.
Coupe du Monde 2026, barrages intercontinentaux. Je le disais tantôt, la RDC joue donc la Jamaïque ce soir à 22h de Kinshasa, soit 23h de l'Est et du centre-sud de la RDC. Le sélectionneur Sébastien Desabres estime quant à lui que la qualification des léopards représente l'espoir pour toute une nation. On l'écoute au micro de Vanessa Kongolo.
Ce que ça signifie pour nous, c'est l'espoir de tout, comme vous l'avez dit, du pays, de toute cette génération de Congolais qui n'ont pas eu la chance de voir leur équipe dans une Coupe du Monde. Ça représente aussi le travail qu'on a initié depuis 3 ans maintenant, puisqu'on a commencé nos qualifications en 2023, des longues qualifications. On est face à la dernière marche, qui est souvent la plus difficile. En tout cas, tout le monde est conscient que le match, on le jouera d'abord pour l'ensemble du pays et tous ceux qui nous ont soutenus.
De leur côté, les léopards restent confiants. On écoute tour à tour Johan Wissa, qui était absent depuis 6 mois dans la tanière à cause de la blessure. Samuel Mutusami s'est dit très concentré. Et Cédric Bakambu, qui a disputé les éliminatoires 2018-2022 et aujourd'hui 2026, n'a qu'un souhait, celui de ramener la RDC à la Coupe du Monde. Leurs propos ont été recueillis par Vanessa Kongolo.
Je me sens bien parce que je vais retrouver la forme. Voilà, je fais confiance à mon corps maintenant. Retrouver aussi les gars, parce qu'après six mois d'absence, là, on est à un pas de faire quelque chose qu'on n'imagine pas. Donc forcément, il faudra des joueurs comme les anciens, de calmer les jeunes et voilà, de faire notre match.
Beaucoup de qualité, beaucoup de solidarité. On s'est beaucoup parlé pour fixer les derniers réglages, comment on allait aborder ce match. On est prêt pour la guerre, comme on dit. Les staffs techniques de toutes les sélections regardent les vidéos des adversaires, donc ça fait partie du jeu, à nous de savoir les contrer. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant toute la semaine, de bien préparer ce match pour être prêt tactiquement pour gagner.
On s'est très bien préparé pour ce match face à la Jamaïque. On sait ce qu'on a à faire et j'ai confiance en mes partenaires. Je pense que on est armé pour aller défier cette équipe des Reggae Boys. Bah nous, on va s'appuyer sur nos forces, à savoir une bonne assise défensive et après devant être tranchant et jouer tous les coups à fond. Bah pour le moment, on n'y pense pas trop. Voilà, on a un match à jouer. On sait que quoi qu'il arrive, le match sera difficile. Ça sera pas une partie de plaisir, mais voilà, on sera prêt et on va y aller avec nos armes. Non, à titre personnel, j'y pense pas. Moi, ce qui m'importe à l'heure actuelle, c'est qualifier la République démocratique du Congo au prochain mondial.
Cette rencontre RDC-Jamaïque suscite une ferveur assez particulière. Rendons-nous à présent dans une fan zone, c'est-à-dire un endroit aménagé où le public peut venir suivre ce match. Dites-nous, Vanessa Kongolo, où êtes-vous exactement et quelle est l'ambiance qui y règne?
Ici, à la place royale où je me retrouve en ce moment, les travaux sont en cours pour l'érection de l'écran géant qui permettra à ceux qui vont se déplacer pour suivre le match entre la RDC et la Jamaïque. Et tout autour, les commerces se sont créés. Le jeune garçon et filles vendent des effigies de la RDC. Il y en a qui vendent des drapelets et quelques insignes aux couleurs nationales. Sur la route, on aperçoit aussi quelques taxis avec devant des drapeaux de la RDC. Il y a également des jeunes qui sont habillés en vareuse, certains qui sont couverts du drapeau de la RDC. Et on sent que l'ambiance est totale et la détermination aussi. Mais il faudra dire que ce match qui va opposer à 22h RD Kinshasa, la RDC à la Jamaïque, sera beaucoup suivi par tous les Congolais qui attendent une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde, 52 ans après la dernière participation. Depuis la place royale, Vanessa Kongolo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, je le disais dans le titre, des combats violents opposent depuis deux jours les rebelles de l'AFC M23 à des groupes armés Wazalendo dans plusieurs localités du sud du territoire de Lubero. Ce mardi matin, des affrontements se poursuivaient alors que l'AFC M23 aurait stoppé les retraits partiels de certaines troupes précédemment observées dans la zone. Les détails avec Martial Papimukeba.
Les premiers combats ont éclaté hier lundi vers 5h du matin dans les villages de Kalongi et Lubango, situés à environ 30 km du chef-lieu de Lubero. Selon des sources locales et sécuritaires, les forces de l'AFC M23 ont attaqué les Wazalendo du mouvement des résistants des patriotes congolais MRPC, récemment installés dans ces villages après les retraits des rebelles quelques jours plus tôt. Ces affrontements ont provoqué les déplacements des populations et la zone aurait été réoccupé par l'AFC M23. Ce mardi matin, de nouveaux combats ont éclaté à Katambi, Kirikiri et Bianze, où le Wazalendo tenta de se redéployer au rencontré la résistance de l'AFC M23. Selon plusieurs sources locales et sécuritaires, l'AFC M23 aurait stoppé son retrait dans certaines localités et tenterait même de reconquérir des villages abandonnés sans combat il y a une dizaine de jours au sud de Lubero. Les responsables des FRDC contactés ont refusé de commenter la situation. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, en territoire de Bafoua-Sendé, l'urgence humanitaire s'aggrave. Plus de 7000 personnes ayant fui les exactions des rebelles ADF à Badengaïdo et dans des villages voisins vivent aujourd'hui dans une précarité totale. Faute de camps officiels, se déplacer sans tasse dans des familles d'accueil ou dans des églises privées des ressources essentielles. Face à cette situation, la société civile locale appelle à une intervention humanitaire immédiate et demande au gouvernement de renforcer la sécurité dans la zone. Philemon Tankbo, acteur de la société civile locale, s'exprime au micro de Jacques Moukonkoli.
Il y a la population qui a fui depuis Mouchacha, Miania, Fourbapaten. Il y en a aussi qui ont quitté 51, 25 Fourbapaten. Plusieurs centaines d'arrivées. Il y a des femmes et des enfants. Il y avait une apparition de Seija à Bakoubi, 60 de kilomètres, territoire de Bafassen, secteur de Bakundum. On les a vus dans un village nommé Bembel, là où on avait tué Manou qui était le rebelle. La sécurité en place ont envoyé des militaires à cet endroit-là. Ce sont les ADF. À Vadengaïdo, il y avait un groupe des Ougandais et la FARDC qui étaient ensemble pour Mouchacha. Ces rebelles sont délogés. Ce que nous demandons à notre gouvernement provincial, ainsi que l'Assemblée provinciale et la sécurité provinciale, de venir tout d'abord voir la population de Bafassende qui est proche de Mambasa afin de recueillir certains éléments de ce que ces gens-là ont fait. Il n'y a pas beaucoup de militaires, la police aussi n'en parle pas pour sécuriser un peu les chefs-liers du territoire ainsi que là où on a vu l'irruption de ces gens-là.
Au sud Kivu, pendant ce temps, la mise en déroute par les FARDC du groupe armé dirigé par le général autoproclamé Amissi Sisawa, alias Mouswahili, suscite des réactions dans les territoires de Chabunda. Certaines organisations de la société civile estiment que cette opération de l'armée contribue à la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du Sud Kivu, longtemps sous l'emprise des groupes armés. D'autres voix encouragent les FARDC à intensifier les opérations de traque contre les groupes illégaux qui continuent d'agir impunément à Chabunda et dans d'autres territoires de la province. C'est un reportage de Jean Kassami.
L'activisme du général autoproclamé Amissi Sisawa et ses compagnons d'armes appartient désormais au passé d'après les porte-parole des FARDC du secteur opérationnel Soukola 2 Nord-Sud Kivu.
Les FARDC du secteur opérationnel ont procédé professionnellement à la traque d'une association de malfaiteurs qui se font passer à tort pour Wazalendo, sous commandement direct de M. Amissi Sisawa alias Mouswahili.
Le ministre provincial de la justice Mayani Foster, avec la délégation qu'il conduisait dernièrement à Chabunda pour une mission officielle, garde encore à l'esprit les séquelles leur infligées par ces groupes.
Quand nous on annonçait notre arrivée à Chabunda, il a commencé à passer à la radio et faire des audios téléphones pour dire qu'il va empêcher notre arrivée à Chabunda.
Les habitants du territoire de Chabunda se disent satisfaits du démantèlement de ces pseudo-groupes Wazalendo.
Il créait déjà une désolation au sein de cette population. En tout cas, c'est un offre de soulagement pour cette population.
Cependant, tout le monde n'est pas unanime sur l'efficacité de la mesure et souhaite que la traque puisse s'étendre sur d'autres groupes illégaux dans les territoires de Chabunda et partout ailleurs où des délinquants endossent la casquette Wazalendo. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Affaire des violences à l'hôpital de Kinkolé, ici à Kinshasa, après une deuxième audience au cours de laquelle ont comparu le médecin directeur de l'hôpital de référence de Kinkolé, plusieurs médecins ainsi que deux témoins, une patiente présente sur les lieux et la grand-mère de la victime. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkolé a décidé de renvoyer l'affaire à demain mercredi 1er avril. Le juge-président a précisé que cette prochaine audience marquera également l'ouverture de plaidoiries. À cette occasion, comparaîtra Dorcas Soraya Moulema, victime de violences physiques et verbales, reprochée au médecin David Balanganaï. De son côté, l'un des avocats du médecin mis en cause estime que le portrait criminel dressé contre leur client est exagéré. On écoute Maître Joël Kadendanga dans cet extrait proposé par Alain Hirong.
Du moins aujourd'hui, le tribunal de la rue a été convaincu que le portrait criminel présenté comme un criminel, un médecin violent, vous avez vu que ça a été lavé. C'est un homme de Dieu, sincérité de Dieu, qui a étudié dans les meilleures écoles, notamment Collège Saint-Louis de Kananga. Et c'est parmi les médecins qui ont réussi à sauver les vies durant la période de Kamuina. C'était parmi ceux qui étaient restés à l'hôpital pour sauver les vies. C'est un sauveur, c'est un héros qui a été mal présenté. Et aujourd'hui, vous l'avez vu s'effondre en larmes. Pourquoi? Parce que lui, au lieu d'attendre les acclamations pour avoir sauvé deux vies, la vie du bébé et la vie de cette dame, elle a été chassée dès l'hôpital parce qu'elle ne collaborait. Deux médecins, elle a giflé. Le premier médecin, il lui a aspergé le sang. sur son corps. Et en conséquence, c'est lui qui vient en troisième position. C'est le sauveur. Nous avons confiance à la justice de notre pays.
Au Kasaï oriental, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, la société EG Group, œuvrant dans les lois là-bas, a organisé hier lundi la première édition du concours de plans d'affaires dans l'amphithéâtre de l'université officielle de Mbujimayi. Plus d'une centaine de projets ont été soumis, mais seuls 4 ont retenu l'attention du jury. Des explications avec Esther Dalafina.
Les lauréates, toutes jeunes entrepreneurs, ont reçu des subventions allant de 1 000 à 4 000 dollars pour développer leurs activités dans la pâtisserie, l'élevage de poulets de chair et la vente d'œufs. D'après Shanti Chela, fondatrice de la société EG Group, l'objectif poursuivi est d'apporter un coup de main à la jeune fille.
Venue en Mbujimayi pour booster la femme entrepreneur, aider cette femme qui entreprend déjà avec de soutien financier pour qu'elle aille encore plus loin, qu'elle n'attende pas la relance de la MIBA, elle doit entreprendre.
Parmi les bénéficiaires, Fidèle Baloa, active dans la pâtisserie, a exprimé sa satisfaction.
Mon projet est un secteur des pâtisseries. Je compte aussi élargir mon projet, engager les jeunes filles et les jeunes gens et élargir de points de vente pour notre développement.
Au-delà de l'appui financier, EG Group prévoit également une formation en entrepreneuriat pour les lauréates. Chanté Chela.
On ne va seulement pas se limiter à leur donner des subventions, mais alors, elles seront formées dans l'entrepreneuriat. Vous avez vu tout à l'heure, notre slogan, c'est « Apprendre, entreprendre et inspirer ».
Ce concours marque une étape importante dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Somalie, cela fait plusieurs semaines que les torchons brûlent entre les autorités fédérales et celles de l'État du Sud-Ouest en raison d'une réforme constitutionnelle très contestée. Derniers épisodes en date de cette crise, l'armée somalienne a pris hier lundi le contrôle de la ville de Baïdoa après de brefs combats contre les forces loyales au président de l'État du Sud-Ouest, tandis que ce dernier a annoncé sa démission sur son compte Facebook.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'actrice sociopolitique Mado Ndoa. Elle encourage le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, à mettre en place des programmes favorisant l'indépendance économique des femmes, notamment à travers l'entrepreneuriat et l'accès au crédit. Mado Ndoa s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Mado Ndoa.
Bonjour Monsieur le journaliste.
À la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme, vous avez produit un dépliant sur le ministère des Genres, Famille et Enfants. Qu'est-ce que nous pouvons retenir globalement de ces documents?
Ce dépliant ici, nous voulons démontrer à la femme congolaise un rôle devrait jouer le ministère des Genres. Nous avons démontré le rôle stratégique qui devait jouer le ministère des Genres, les attentes que la population, la femme congolaise, attendait du ministère du genre, famille et de l'enfant. Nous voulons que les mamas sachent qu'au niveau du ministère du genre, il y a plusieurs directions qui travaillent pour elles. Les mamas ne savent pas, lorsqu'ils ont des problèmes, ils doivent se référer au ministère du genre. Nous voulons, à travers ces petits documents, vulgariser au moins les services qui devaient vraiment apporter le ministère du genre au niveau de la femme. Il faut que la femme sache que nous avons un ministère. Lorsqu'elle a un problème, ils doivent se référer à ce ministère-là. Il y a tellement beaucoup de violences qui se font au niveau de la femme congolaise. Mais la femme ne savait pas où commencer. Il y a des femmes qui vont voir des ONG et pourtant le ministère est là. Les ministères pouvaient les accompagner, donner même des avocats pour que la femme soit accompagnée. Mais la femme n'arrive pas parce que à cause des moyens, elle ne sait pas comment atteindre les avocats. Mais le ministère du genre est là. Il devait accompagner les mamans des victimes de violences conjugales, des victimes de violences sexuelles.
Alors, qu'est-ce qui explique votre démarche?
Nous voulons sentir l'impact du ministère du genre au niveau de la population. Nous voulons que le ministère du genre puisse vulgariser, par exemple, le numéro vert. Lorsque la femme a un problème, ils peuvent toutefois appeler ce numéro vert-là que voilà, j'ai un problème. Il y a même des filles qui sont violentées même au niveau des écoles. Ils ne savent pas quoi faire. Nous voulons sentir vraiment l'impact du ministère du genre au niveau de la population, dans la défense des droits de la femme, droits des enfants et la famille. Mais le ministère du genre, là, n'est pas seulement le mois de mars, non. C'est comme si ça devait quelque chose des femmes qui sont dans des postes élevés, tout ça. Et les mamans maraîchères, les mamans bipolaires, ils ne sentent pas qu'est-ce que le ministère du genre fait Lorsque nous parlons au ministère du genre, famille de la femme, ça englobe l'ensemble de la population. Nous voyons les genres, l'homme et la femme. Nous voyons les familles. Nous voyons la protection des enfants. Nous voyons la protection et l'accompagnement des familles. Donc c'est ce que nous attendons du ministère du genre.
Que préconisez-vous pour booster la politique du genre, famille et enfants à travers les pays?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La majorité des qui sont dans l'informel, ce sont des femmes. Ces femmes-là, comment les encadrer pour qu'il y ait un accompagnement des familles? Parce que la famille, c'est la cellule de base.
En cette période où les pays font face à la crise sécuritaire, quelle peut être la mission spéciale de la femme pour restaurer la sécurité?
La restauration de la sécurité, ça commence d'abord au niveau de la famille. Vous savez, la famille, c'est la cellule de base. Lorsque la famille est bien protégée, vous voyez, il y a les problèmes de kidnapping, il y a les problèmes de kulouna. Lorsqu'il y a une famille qui ne savent pas protéger leurs enfants, les enfants sont dans la rue. Ça pose un problème. Il faut qu'il y ait un accompagnement du gouvernement à travers le ministère du genre, à responsabiliser les parents sur les droits parentaux. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à prendre les responsabilités. Vous allez voir des mineurs dans la rue après des vendre des lots. Le président de la République a mis les centres de Kanyamaka, c'est là où on est en train de former les enfants. Mais ça ne suffit pas. Il faut que la famille puisse jouer ce grand rôle-là. Et c'est à travers le ministère déjà qui doivent suivre tout ça. Un enfant mineur ne peut pas commencer à nourrir sa famille. Non, c'est dans la responsabilité des parents. Lorsque vous mettez au monde, vous devez avoir cette capacité de pouvoir élever les enfants. Nous voulons sentir que nous avons un ministère qui s'occupe de la représentativité de la femme, qui s'occupe des droits des enfants, qui s'occupe de la protection des familles.
Madame Madou Ndoa, nous vous disons merci.
J'ai dit et je vous remercie.
Et c'était l'invitée de ce journal, l'actrice sociopolitique Madou Ndoa. Elle s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Fin de ce journal qui a été préparé par Elise Tikota et Levin Mbwinga. André Mongou et Pierre Diassinois étaient à la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Bonsoir chez vous.